VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
À Ouagadougou, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Gambie, l'ONU réclame instamment que les forces de sécurité gambiennes quittent les locaux de la commission électorale indépendante qu'elles ont occupé le jour de la visite d'une délégation de chefs d'État d'Afrique de l'Ouest à Banjul. Le point avec Eddy Sango.
Le secrétaire général sortant de l'ONU a condamné hier l'intervention des forces de sécurité gambiennes contre la commission électorale indépendante de la Gambie. Il a demandé aux militaires et policiers de quitter immédiatement les locaux de la commission. Ban Ki-moon a appelé les forces de sécurité à s'abstenir des tout nouveaux actes qui menaceraient les efforts pour instaurer un transfert pacifique du pouvoir. Ces forces ont assiégé la commission électorale mardi pendant qu'une délégation des quatre chefs d'État africains s'est trouvée à Banjul pour convaincre le président sortant Yahya Jammeh de céder les pouvoirs à son successeur élu Adama Barrow. Pour Ban Ki-moon, c'est un manque scandaleux de respect de la volonté du peuple gambien et un défi à la communauté internationale. L'ONU demande au président Jammeh de céder le pouvoir à Adama Barrow en janvier.
Les ressortissants africains refoulés d'Algérie ont commencé à regagner leurs pays respectifs en passant d'abord par le Niger, notamment la ville d'Agadez. Sur place, notre correspondant Abdulrazak Idrissa a rencontré quelques-uns d'entre eux qui lui ont raconté leur calvaire.
Chantal Mabiala, congolaise de 35 ans, et Kanga Kwasi Philippe, ivoirien de 46 ans, se souviennent encore des conditions horribles dans lesquelles ils ont été traités avant leur expulsion.
Là où je suis foutu.
Ah, ça c'était pénible. Où je suis là, je n'ai même pas un rond.
À la sortie ouest de la ville d'Agadez, la plupart des près de 900 migrants rapatriés d'Algérie sont encore sous le choc. Depuis trois jours qu'ils sont là, ils se sentent davantage humiliés que lorsqu'ils étaient traqués en terre algérienne pour être rapatriés. Kanga Mana et Edwige sont de nationalité camerounaise.
On n'a même pas prévu de NAC pour nous. Nous, on est plus que des criminels. On est gardés par la police.
Moi, je suis enceinte. Quel suivi j'ai ici, je ne sais pas.
Depuis le 12 décembre, ces expulsés sont acheminés à Niamey, d'où des véhicules les prennent chacun pour son pays d'origine. Abdulrazak Idrissa à Agadez pour VOA Afrique.
Le Burkina Faso et la Tunisie ont été choisis, de même que le Sri Lanka, pour bénéficier du nouveau partenariat du MCC, le Millennium Challenge Corporation du gouvernement américain. Il s'agit de subventions quinquennales dont le but est de promouvoir le développement économique et de réduire la pauvreté. Quels sont les critères qui ont conduit au choix de ces deux pays africains? Bagassi Koura a joint ici à Washington Maïté Osteta, chargé d'analyse au Millennium Challenge Corporation.
D'abord, la liberté économique, après ça, l'investissement dans le capital humain et aussi la bonne gouvernance.
Concernant le Burkina Faso, qu'est-ce qui vous a le plus séduit?
Même si le Burkina Faso a vraiment traversé une période assez difficile, ils ont vraiment bien renforcé leur processus démocratique, spécifiquement avec les élections bien réussies en 2015. Et on était vraiment contents de voir une tendance positive à travers le temps pour le Burkina. Ils ont bien réussi la mise en œuvre du premier compact, qui est un critère. Ils ont aussi montré des tendances très positives sur la feuille de route à notre critère. Et le Burkina Faso s'engage vraiment fermement en faveur des réformes sectorielles et nous sommes très encouragés par ceci.
Et en ce qui concerne la Tunisie?
Donc la Tunisie, effectivement, cette année, nous avons vu qu'ils ont vraiment, déjà sur la feuille de route, ils avaient une très bonne performance, spécifiquement sur les droits civils et les droits politiques, et aussi le combat de la corruption. Le MCC, le conseil d'administration, s'est dit que vraiment, il y avait cette très bonne performance d'un côté, mais aussi la Tunisie nous offrait une opportunité d'engagement pour vraiment travailler étroitement avec la Tunisie pour faire face aux nombreux défis en tant que la pauvreté et l'inégalité dans le pays.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant que ces pays ont été choisis?
L'équipe MCC qui gère les programmes Contact va aller sur le terrain, engager avec leurs homologues au sein des ministères, du gouvernement, pour commencer le lancement du processus du développement du Contact. Ceci entame aussi des études économiques qui regarderont vraiment les contraintes à la croissance économique et à la pauvreté dans ces deux pays. Tout cela va commencer un processus qui va durer plusieurs années où on va développer un investissement qui devra après être soumis au conseil d'administration pour une validation finale avant de commencer.
Le Burkina Faso et la Tunisie sont deux pays qui sont aussi confrontés à des problèmes de sécurité, notamment le terrorisme. Est-ce que c'est un secteur qui est aussi pris en compte?
Nous nous rendons bien compte de la situation sécuritaire dans ces pays. Et nous prenons ça en considération aussi, comme les autres acteurs du développement.
Maïté Ostete, chargée d'analyse au Millennium Challenge Corporation, ici à Washington.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
RDC, les travaux du deuxième dialogue national se poursuivent en commission, bien que les discussions se déroulent à huis clos. On sait maintenant que les tractations entre la majorité présidentielle et l'opposition achoppent sur la date des élections et le retour au pays de l'opposant Moïse Katumbi. Martin Fayoulou, du Rassemblement d'opposition, donne des détails.
Nous avons écouté la CENI. L'après-midi, nous allons revenir pour lever les options politiques. Et à partir de ces options, nous allons décider. En tout cas, nous, au Rassemblement, nous avons dit que les élections doivent avoir lieu en 2017. Ça, c'est un. Le deux, il faut coupler l'élection présidentielle et les législatives nationales, comme ce fut le cas en 2011. Trois, ces deux élections auront lieu pour nous les 10 septembre 2017.
Martin Fayoulou du Rassemblement d'opposition, propos recueillis par nos confrères de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Et toujours en RDC, les autorités congolaises ont demandé un filtrage ou une coupure des réseaux sociaux dans le pays à partir de dimanche, moins de 48 heures avant la fin du mandat du président Joseph Kabila. C'est ce qu'on a appris ce jeudi auprès de 4 fournisseurs d'accès à Internet. Selon ces sources, les opérateurs du secteur n'ont pas encore reçu d'injonction formelle des autorités et ces opérateurs ont demandé que l'ordre leur soit donné par une note écrite détaillant les souhaits des autorités. Le Soudan du Sud, toujours dans l'œil du cyclone, après avoir brièvement entrevu la fin de la guerre civile déclenchée le 15 décembre 2013, le Soudan du Sud a assisté ces derniers mois à l'implosion du processus de paix et au retour des violences à grande échelle qui font maintenant craindre une dérive génocidaire. Les tueries à caractère ethnique ont redoublé ces derniers mois, notamment dans la ville de Yé et ses environs en Équateur central, poussant des dizaines de milliers de personnes à se réfugier en Ouganda voisin. La pression internationale a contraint le gouvernement sud-soudanais à accepter le déploiement à Djouba d'une force de maintien de la paix additionnelle, forte de 4000 hommes sous mandat de l'ONU. Mais les modalités de ce déploiement et son calendrier restent incertains. En Égypte, les autorités ont exécuté aujourd'hui un djihadiste condamné à mort pour le massacre de 25 policiers dans la péninsule du Sinaï en 2013. Adel Abara a été pendu dans une prison du Caire quelques jours après la confirmation de la peine capitale. Ici aux États-Unis, dans le scandale de l'eau empoisonnée à Flint, les populations pointent du doigt un coupable, le gouverneur du Michigan, Rick Snyder, dont les décisions ont conduit au désastre. Les détails avec Nastasia Peteuil.
Rien qu'à entendre le nom du gouverneur, de nombreux visages se crispent à Flint. Pour les habitants, il est en partie responsable de la situation. Un journaliste de Michigan Radio a suivi la crise depuis les débuts. Steve Carmody explique pourquoi le gouverneur est accusé d'être la source du problème.
Snyder est de plus en plus isolé, car beaucoup de gens le montrent du doigt. Il a nommé l'administrateur d'urgence qui a pris la décision de faire le changement, et il a aussi nommé l'administrateur qui a continué à faire le changement malgré les problèmes.
Pour l'instant, 9 employés de l'État ont été accusés d'avoir caché l'ampleur du problème. Mais le procureur, dans ses poursuites, ira-t-il jusqu'au gouverneur lui-même? Pour Steve Carmody, rien n'est encore certain.
Si vous regardez parmi les gens qui ont été inculpés, ça commence tout en bas de la hiérarchie et ça remonte vers le haut. Jusqu'où cela ira-t-il? Nous ne le savons pas encore.
Les habitants de Flint accusent l'État du Michigan et le gouverneur de n'avoir pas réagi efficacement face à la crise. Des militants viennent de poursuivre en justice le Michigan pour le forcer à fournir des bouteilles d'eau dans toutes les maisons. Mais l'État a fait appel.
Pour terminer le conflit en Syrie, quelques 4000 rebelles ainsi que leurs familles seront évacués d'Alep. Les préparatifs pour cette opération majeure sont en cours. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Au